Un bâti moment avec Marjolaine Meynier-Millefer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE-GBC.
Bonjour à tous qui nous écoutez sur Bâti Radio. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau Bâti Moment Ensemble. Cette émission, vous le savez, s'intéresse à tous les sujets où nos bâtiments croisent les enjeux du développement durable, parce qu'on fait le pari ici que finalement c'est vous qui nous écoutez sur Bâti Radio qui pourrez finalement sauver la planète. Sans plus de transition, je vais accueillir mon invité du jour, Jean-Pascal Chira. Bonjour.
Bonjour Marjolaine.
Alors vous êtes le délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat. Vous avez conduit votre carrière au sein de groupes industriels de production et de distribution d'équipements et matériaux pour la construction, chez Saint-Gobain, pour ne pas les citer en dernier lieu. Vous intervenez dans de nombreuses organisations professionnelles fédérant les acteurs des filières du bâtiment. On peut dire que vous êtes un homme de réseau.
Oui, exactement. Effectivement, l'histoire a voulu que je me trouve à l'interaction entre plusieurs réseaux dans le domaine du bâtiment, puisque c'est effectivement le bâtiment qui a beaucoup marqué ma carrière.
Alors racontez-nous un petit peu cette carrière, comment vous en êtes arrivé à ces sujets-là?
Eh bien effectivement, à ma sortie d'école de commerce, je suis rentré directement dans le bâtiment, je suis tombé dedans. Effectivement, d'abord une longue période chez un fabricant d'équipements de chauffage qui m'a amené forcément à avoir des connaissances précises sur ce marché du chauffage et de la thermique. Et puis également un long moment dans la distribution B2B, donc le négoce d'équipements également et de matériaux qui m'a amené là aussi à avoir une approche globale du marché du bâtiment. Mais au-delà, je peux le dire aujourd'hui, parce que ça fait une longue période que je suis en activité professionnelle, au-delà de ce cursus professionnel, j'ai un véritable engagement personnel, citoyen, si je puis dire, sur les sujets environnementaux et sur les sujets au sens large de l'énergie.
Donc on peut dire que vous êtes vraiment au croisement des réflexions des uns et des autres, en suivant finalement tout ce qui se passe un petit peu de partout, et vous essayez de nourrir tout ça au Club de l'amélioration de l'habitat, vous essayez d'en faire synthèse. Pour vous, l'objectif, c'est de mettre l'humain au centre. Expliquez-moi pourquoi c'est important.
Alors, effectivement, aujourd'hui, j'occupe une partie importante de mon temps à cette fonction de délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat. Alors, un mot sur ce club, c'est une association qui était fondée il y a 30 ans, 5 janvier 92.
Bientôt l'anniversaire qui arrive là.
Merci, bientôt, oui, on va fêter notre anniversaire. Alors, c'est important de se dire dans quelles conditions, finalement, ce club s'est créé. Il était créé à l'initiative conjointe, il y a 30 ans, précisément de l'ANA, donc des institutionnels de l'ANA, du ministère du Logement, de la Fédération du Bâtiment, d'un certain nombre de grands industriels, dont Saint-Gobain d'ailleurs. À l'époque, on peut se rappeler, on finissait une très longue période de reconstruction massive de la France, d'urbanisation à outrance, et il devenait très important à ce moment-là de s'intéresser à la performance du bâti, mais aussi à la qualité de vie des habitants.
Est-ce que vous aviez le sentiment à ce moment-là qu'un sujet avait débordé sur l'autre?
Je pense qu'on avait...
Il y en avait un qui pêchait particulièrement.
Il y avait une certaine convergence de sujets. Il est clair qu'il y avait une prise en conscience forte des questions environnementales et des questions énergétiques, déjà depuis les années 80, il faut se le dire, depuis les premières réglementations thermiques. Et il y avait en même temps un sujet social ou sociétal fort qui était précisément la réflexion portée sur... le changement de modèle en termes d'urbanisation, et ça passe forcément par de la rénovation, de la réhabilitation. Donc, il y avait convergence de sujets, les lois et les politiques publiques allaient dans ce sens. Nous manquions d'instruments qui permettaient d'avoir une analyse objective de la situation. Et donc, les fondateurs du Club d'amélioration de l'habitat ont à ce moment-là imaginé de créer cette association neutre, somme toute, qui, avec le temps, s'est enrichi d'un grand nombre même d'acteurs, aujourd'hui 65 membres, publics, privés, et nous représentons l'ensemble des acteurs, la communauté d'acteurs de la rénovation de l'habitat.
Avec une philosophie particulière, un angle de recherche particulier.
Oui, alors un angle de recherche particulier, pourquoi? Ce qu'on appelle le marché de la rénovation de l'habitat, c'est un marché important, c'est un marché... Chaque année, si on donne des chiffres vraiment globaux, à peu près 50 milliards chiffres d'affaires qui passent par les entreprises et un bon 10-12 milliards qui sont de l'auto-rénovation directement des particuliers. Et ce chiffre est assez stable dans le temps, même très stable.
Il est important. Là, on inclut tout type de rénovation. On ne parle pas uniquement de rénovation énergétique. On parle aussi, par exemple, de gens qui refont faire leur cuisine pour changer de style ou du coup de peinture.
On inclut toutes les rénovations. La rénovation énergétique en elle-même, la rénovation énergétique qui a un impact en termes d'efficacité, représente aux alentours de 16-18 milliards par an. J'en profite pour dire que nous pensons que ça représente à peu près les deux tiers d'un ensemble.
Donc on met 34 milliards, si je compare bien, pour passer des coups de peinture et 16 milliards pour transformer profondément nos logements.
Il y a un peu plus que des coups de peinture parce qu'il y a quand même énormément de travaux qui sont des travaux sur le bâti, sur la réfection du bâti, la réfection intérieure, l'agencement intérieur, etc. Il faut se dire que Les travaux de la rénovation du bâtiment sont très souvent des travaux nécessaires, des travaux induits nécessaires parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est l'obsolescence technique. Et somme toute,
ce que vous dites, c'est que c'est une contrainte, c'est pas une envie.
Alors complètement, c'est souvent une contrainte, c'est pas une envie. Et si on veut vraiment en faire un marché de consommation, il faudrait créer cette notion d'envie. Cette notion d'envie ou cette notion de confiance également, de proximité, pour en faire un véritable marché de consommation. Ça n'est pas aujourd'hui un marché de consommation, c'est encore une fois un marché plus de nécessité. Certes, et vous avez raison, quand on fait un peu d'embellissement, oui, on va y mettre une certaine envie, un certain plaisir, mais c'est une partie de ce marché, une partie même plutôt faible. L'essentiel, c'est des travaux qu'on peut pas éviter. Et c'est une des raisons pour lesquelles, souvent, les gens, les particuliers, font pas à minima, mais au mieux qu'ils puissent faire. Hein. Et ils le font par eux-mêmes. On observe d'ailleurs qu'ils ne font pas forcément appel au crédit à la consommation. Ils ne font pas forcément appel à de l'accompagnement. Ils se débrouillent. Ils font confiance aux entreprises, ça
ils
c'est
font
une réalité.
Avec l'argent qu'ils ont et avec les moyens qu'ils ont.
Exactement. Et ils n'ont pas forcément une vision globale, comme on est amené souvent maintenant à en parler, de la rénovation. Voilà. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, la réno est plutôt ce qu'on appelle par geste, par petits morceaux, et que c'est vrai que si on veut lui donner une amplitude plus forte, il faudra forcément aller vers une meilleure globalisation des travaux.
Voilà. Ça, c'est une préoccupation qui est de plus en plus forte chez l'ensemble des acteurs, de basculer vers des logiques de rénovation globale. Alors globale, pas simplement dans la profondeur des rénovations énergétiques, typiquement, parce que là, on parle d'atteindre les niveaux BBC qu'on vise pour 2050, mais également globale dans le sens transversal, c'est-à-dire qui intègre les différentes problématiques, par exemple du vieillissement de la population, de l'intégration du handicap, du confort de vie, de la qualité de l'air, enfin beaucoup de sujets finalement qui ne sont pas traités, ou en tout cas pas directement traités par les questions énergétiques qui étaient celles qui occupaient tout le monde en fait dans les années 70.
Oui, complètement. Bon, on est bien sûr influencé, ce qui est logique, par les questions environnementales et énergétiques, tenant compte de la politique générale, du contexte général, mondial, mais une chose est certaine, c'est que les dénominateurs communs, somme toute, c'est l'habitat et l'habitant. L'habitat, parce qu'effectivement, on va pas disséquer un habitat dans sa valeur intrinsèque. C'est un habitat, c'est le confort, tous les conforts d'ailleurs, qu'ils soient thermiques, acoustiques, visuels, etc. Au sens large, c'est le confort, donc c'est le sensitif, ce que l'on ressent. Et puis l'habitant, c'est la personne. Et il faut observer d'ailleurs que la même personne, elle a plusieurs postures. On peut être un habitant et sensibilisé par la question de confort. On peut être un propriétaire sensibilisé par des questions de gestion patrimoniale. Et c'est la même personne. Et c'est la même personne en face du même habitat. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on comprend que la même personne va traverser des situations de raisonnement ou de ressenti qui sont différentes. Donc, on a des dénominateurs communs, habitat, habitant, et c'est une des raisons pour lesquelles il est important d'avoir cette vision, cette approche, somme toute globale, parce que, encore une fois, ce marché de la rénovation, même si se séquence par nature de travaux, bon, c'est très précis, mais globalement quand même, quand un maître d'ouvrage veut engager des travaux et qu'il est correctement conseillé, il va avoir une vision globale 360 sur... Bon, une des raisons pour lesquelles c'est important, notamment qu'il soit accompagné, parce que ça va lui permettre, ça va éclairer son chemin. Voilà. Mmh. Donc oui, on travaille là-dessus, on travaille tout, c'est le jeu du club, de travailler sur mesurer, comprendre et agir. Sur ce marché.
Mais alors du coup, pour éclairer ce chemin, ce conseil, on essaye de le développer un peu partout sous différentes formes, mais est-ce qu'il est jamais vraiment complètement neutre, ce conseil? Est-ce qu'il n'est pas toujours un peu avec un angle, que ce soit par exemple un angle hyper environnemental qui irait dire j'en sais rien, il faut faire que du biosourcé, il faut faire que de la rénovation énergétique, pour le coup le coup de peinture c'est pas bien, voilà, ou de l'autre côté, s'il est fait par des gens gens qui sont plus intéressés aux questions économiques pour eux-mêmes, ben, ça peut être, ben non, il faut absolument changer la chaudière, finalement l'isolation c'est pas grave, ou est-ce qu'à un moment donné on arrive à trouver des équilibres entre les gens qui connaissent vraiment leur métier et en même temps d'avoir un conseil neutre, est-ce que ça se développe vraiment ça?
Alors d'abord, il va falloir que ça se développe. Alors, une chose est sûre malgré tout, je le disais tout à l'heure, bon nombre de travaux sont des travaux induits. Vous avez parlé de chaudière, il est clair que si le jour où la chaudière elle casse, d'un jour au lendemain, parce qu'il fait moins 5, ben, il faut la changer. Là, il n'y a pas à discuter. Donc on a effectivement comme ça des travaux qui sont nécessaires, on ne se pose pas de questions, il faut le faire. C'est une partie des travaux. Je vous parlerai tout à l'heure d'une approche segmentée que nous avons, une analyse segmentée que nous avons du marché.
Est-ce que c'est au moment où la chaudière casse qu'on fait les meilleurs choix? Est-ce qu'il ne faut pas justement avoir un travail avec la maintenance régulière pour avoir le temps de réfléchir correctement au moment où elle cassera, avoir déjà les solutions?
Très bonne remarque. Je vous parlerai, je vous l'ai dit, de l'analyse segmentée. Oui, c'est vrai, complètement vrai. Si on attend, parce qu'on ne s'en occupe pas, parce qu'on est un peu passif dans sa façon de faire, qu'on soit piégé parce que la chaudière, elle casse du jour au lendemain, bah, finalement, on est pris, on n'a pas anticipé. Alors que si on a une démarche un peu plus anticipatrice, on va pouvoir mieux gérer avec plus d'intelligence, finalement, un projet. Et au-delà de ça, optimiser ce projet, l'élargir. C'est ça la bonne démarche. Mmh. Encore faut-il que l'information arrive au consommateur, à l'habitant, qu'il la comprenne, qu'il l'accepte, qu'il soit accompagné, qu'il y ait une relation de confiance. C'est pas forcément simple. Parce qu'effectivement...
Est-ce que ça passe par les gens qui écoutent Bâti Radio, par exemple?
Alors, les gens qui écoutent Bâti Radio, ils doivent effectivement se convaincre qu'il faut apporter aux consommateurs des informations, de l'accompagnement. Vous posiez la question, est-ce qu'il n'y a pas une influence? Oui, il y a forcément une influence de par le métier que l'on possède. Mais malgré tout, et c'est vraiment ce qui est préconisé aujourd'hui dans toutes les instances, c'est qu'il y ait une forme d'acculturation des techniques, de transversalité, pour que, quand on aborde un projet de rénovation, on ait cette vision globale, et quel que soit finalement le professionnel qui l'aborde, qu'il ait cette objectivité et cette culture finalement, qui lui permettent d'apporter un conseil global. Ça,
parce
c'est
que
une
c'est
préconisation.
Ce qui permet finalement de soutenir toute la filière de manière durable aussi, parce que finalement, quand on fait des conseils à la va-vite ou qu'on tire son épingle du jeu à un moment, à l'instant T pour soi-même, finalement, à terme, on finit par construire une mauvaise réputation au secteur, on construit la méfiance des particuliers envers les professionnels. Finalement, en fait, on est tous un peu responsables de la manière dont on valorise
complètement
ce rôle de soutien en fait, de la filière.
Il y a une relation interactive des acteurs du bâtiment dont tu dois bien mesurer. On parle souvent de fonctionnement en silo, etc., ce qui est une des caractéristiques du bâtiment. Mais ce qui est également caractéristique du bâtiment, c'est que les entrepreneurs du bâtiment sont aussi capables de se coordonner. Ils le font par nécessité dans des chantiers. Et donc, il est important d'imaginer que ça puisse se faire dans le cadre de la rénovation. Et que il y ait cette forme, je le redis, de transversalité d'acteurs. En tout cas, c'est...
Oui, parce que vous, votre objectif, c'est vraiment de décloisonner finalement et de faire travailler les gens ensemble. C'est notamment en travaillant ensemble que vous avez sorti votre dernier livre, Réenchantons nos espaces de vie. Voilà. C'est le dernier ouvrage du Club de l'amélioration de l'habitat. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot?
Oui, merci. Effectivement, on produit régulièrement des ouvrages qui retracent en fait nos travaux. On a produit le 28 juin dernier un colloque, et à l'occasion de ce colloque, on a rédigé un bouquin, Réenchantons nos espaces de vie, je ne sais pas si c'est vu.
Vous pensez qu'il mérite d'être réenchanté? C'est triste un peu?
Oui, il mérite certainement d'être réenchanté. Et quand on parle d'espace de vie, on a volontairement employé bien sûr le pluriel, avec l'espace de vie, on va dire, personnel, qui est son habitat, et l'espace de vie collectif, qui est son quartier. Alors, en ce qui concerne l'habitat, je veux dire un mot sur plusieurs enquêtes que nous avons fait réaliser en conjointement avec Qualitel, avec l'organisme Ipsos, vers les consommateurs. Donc, on a à plusieurs reprises, pendant plusieurs années, deux années, interrogé des propriétaires occupants. En France, il y a 18 millions de propriétaires occupants sur l'ensemble des logements. Et on les a interrogés sur finalement leur comportement. Hein, face aux travaux. Et on a été très large dans l'approche. Et on a mis en évidence ce qui est intéressant, ce qu'on peut appeler une approche matricielle du marché, c'est-à-dire une segmentation du marché. Mmh. Et ce marché, on l'analyse de la manière suivante. D'abord, il se répartit en quatre grands univers travaux. Des travaux, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont souvent indispensables, incontournables, on les a cités. Des travaux qui sont des travaux de type confort, des travaux qui sont de type embellissement esthétique, et des travaux qui sont de type reconstruction. Et quand on balaye ces quatre univers, ben finalement, on touche toute la segmentation des corps de métier du bâtiment de la rénovation. Ça, c'est le premier point. Et on a des pourcentages pour ça, bien sûr. Et à côté de ça, on a, en abscisse, si on peut dire, des comportements. Et on a analysé 5 comportements qui sont évolutifs dans le temps, mais qui caractérisent les individus que nous sommes, ou les ménages. Des passifs, importants, 35%, qui sont souvent des primo-accédants, qui accèdent à un logement, qui n'ont pas forcément ni l'intention, ni l'envie, ni le moyen de le transformer, mais qui vont peut-être changer de logement un peu plus tard. Des modérés, qui sont des passifs qui voudraient bien, mais malheureusement qui ne peuvent pas. Et clairement, ce sont des gens qu'il faut aider financièrement. Clairement. Et puis, des gens qui sont mainteneurs. Donc, le type qui s'est fait piéger avec sa chaudière qui lui a claqué dans les doigts en plein hiver, la fois prochaine, il va être un peu plus anticipateur. Il va être mainteneur. C'est-à-dire, je vais faire attention. Des mainteneurs. Donc, ils anticipent un peu plus. Des embellisseurs qui ont cette sensibilité un peu plus esthétique, harmonieuse, etc. Et des reconstructeurs qui vont s'attaquer en profondeur à une rénovation parce que les circonstances les y amènent ou parce que c'est dans leur esprit. Donc, 5 catégories, donc 5 profils. Et quand on croise les 2, 4 et 5, on a donc 20.
On comprend pourquoi c'est un beau bazar pour parler aux gens sur le sujet de rénovation, finalement.
Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on analyse de manière segmentée, on va avoir une approche plus focalisée.
Ouais, on peut comprendre comment on peut construire un message qui touche chacun d'entre eux.
Voilà, et on peut aussi comprendre quels sont les leviers.
Donc ça veut dire que les discours uniques sur la rénovation énergétique, il faut arrêter.
Je pense que quand on a une approche, on a une approche globale et macroéconomique, on se heurte quand même à une difficulté, c'est celle de pouvoir discerner véritablement les besoins, la demande, etc. On est plutôt très fort aujourd'hui pour construire l'offre, les industriels, les distributeurs, les entreprises, tout le monde, les bureaux d'études, architectes, je cite tout le monde est bon. Mais pour comprendre la demande et surtout activer cette demande, c'est plus compliqué. On l'a dit tout à l'heure, c'est un marché qui n'est pas un marché spontané de demande, d'envie, d'un marché de besoins, et on y répond. Alors on y répond, c'est ça qui nous fait 50 ou 60 milliards, mais ça ne fait pas plus. Si on voulait vraiment aller au-delà, qu'on aille creuser le marché de la rénovation énergétique, et qu'au lieu de faire 2/3, 300 000 logements contre 500 000, on fasse ces 500 000, bah, basiquement on ferait 8, 10 milliards de plus d'économies locales. Donc ça serait quand même très profitable. Et ça vaut pour tout. Ça vaut pour l'adaptation du logement, qui est un marché qui est aujourd'hui faiblement développé et qui ne va que croître, tenant compte de la démographie. Donc voilà.
Donc finalement, si je synthétise, les travaux du Club de l'amélioration de l'habitat, c'est vraiment engagé par l'envie, les gens dans la rénovation énergétique. Donc c'est très complémentaire du travail du législateur qui, lui, passe plutôt par les normes, la contrainte, les obligations. Donc finalement, c'est un vrai partenariat que vous menez.
C'est complémentaire. Et un dernier point, je voulais citer parce que je l'ai oublié, c'est dans notre bouquin précisément, l'autre approche que nous avons, elle est plus globale et collective. Elle est au niveau des quartiers. Donc très brièvement. Oui. L'idée que nous avons, et d'ailleurs on la partage avec notamment les ministères, notamment sur les grands programmes d'État comme Action Cœur de Ville, c'est qu'on peut aussi rénover à une échelle de quartier ou d'îlot de quartier. Parce que de cette manière-là, on va embarquer d'abord le public et le privé, parce que tout le monde a les mêmes intérêts, et on va pouvoir massifier ou intensifier la rénovation autrement que sous l'angle individuel. Donc c'est une autre approche, complémentaire aussi, qui va aussi dans le sens de la politique.
C'est vraiment ça aussi quelque chose qui est en train d'émerger à plein d'endroits différents. On est en train de sortir de l'échelle du bâtiment seul pour passer effectivement à l'échelle du quartier. On se dit que finalement énormément de solutions se trouveront à ce niveau-là.
Il y a une interaction évidente entre les deux.
Merci Jean-Pascal Chira, on a passé un bon petit moment ensemble, il est déjà presque un peu long.
On n'a pas vu passer le temps parce qu'on a
vraiment
plus de trois sujets,
pas vu passer le temps, il faudra revenir pour parler
d'autres choses.
Je parlerai
de formation la prochaine fois, d'accord? Parce que j'ai oublié, je voulais en parler. Mais on en parlera la prochaine fois parce que ça vaut vraiment la peine de s'intéresser au sujet.
Mais justement, peut-être pour conclure, un mot pour les jeunes qui nous écoutent, parce que comme vous le savez, c'est un des enjeux. Il va falloir que nos filières dans leur ensemble recrutent, attirent des jeunes vers ces métiers-là. Oui. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil et comme perspective?
Alors, en un mot, le marché du bâtiment, c'est effectivement un marché qui monte en puissance. Il y a 400 000 entreprises, il y a 1 200 000 collaborateurs d'entreprise, et il y a un potentiel de croissance énorme. Faut-il peut-être travailler sur cette notion d'attractivité métier? Ça nous semble important pour parler, pour communiquer aussi bien à des gens qui sont déjà en parcours professionnel pour les amener à continuer à se former, pour travailler au niveau des jeunes qui cherchent un peu leur voie pour les amener à s'orienter, notamment sur les métiers du bâtiment. Clairement, oui, il y a un vrai devenir, un vrai intérêt professionnel à s'intéresser au métier du bâtiment. Il faut certainement un peu le structurer, mais il y a de la matière. Et pendant les 10, 15, 20 ans qui vont venir, il y aura du taf, qu'on peut dire, pour les jeunes dans le bâtiment. Donc, bienvenue au club, si je puis dire. On va pouvoir fonctionner ensemble. Merci beaucoup, Marjolaine.
Merci beaucoup, Jean-Pascal. Je vous laisse ce mot de la fin. Il est excellent.
Merci.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Un bâti moment avec Marjolaine Meignet-Millefer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE-GBC.